Bonjour. Alors, ça fait drôle après 2 mois, hein? J'avais prêché le jour de l'an. Alors, c'est bon d'entendre des témoignages aussi de notre frère Joseph et Louise. Joseph, il a mis la barre haute ce matin, là. C'est des pierres précieuses que le Seigneur ajoute. Il va chercher ça, hein? Partout dans le monde, il nous assemble ici pour former son corps, former le temple de Dieu. C'est extraordinaire, c'est magnifique, n'est-ce pas? Alors, bienvenue dans la famille, bienvenue à tous ceux qui s'ajoutent aussi pratiquement à chaque mois. On a vu la dernière fois que dans tout croyant qui est né de nouveau, on a reçu l'Esprit de Dieu. Alors, si vraiment j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur, cette journée-là, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Jésus était présent sur terre dans son corps physiquement avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est mieux que je m'en aille, puis que je vous laisse le Saint-Esprit, le Consolateur. Hein? Alors, il y a cette promesse que l'Esprit de Dieu est venu habiter parmi nous. Là, j'espère que ça marche. Hey! Alors, il est avantageux pour vous que je parte et je vous l'enverrai. Il va être éternellement avec vous, auprès de vous. Il sera en vous et moi, je serai en vous. Croyez-vous ça? Ce matin, là, hein, 2000 quelques ans plus tard, que le Saint-Esprit est en nous. Et ce Saint-Esprit-là, il agit. Hein? Qu'on le veuille ou non, le Saint-Esprit fait son œuvre dans chacun des croyants. Alors, chaque croyant, on pourrait dire individuellement, est le temple du Saint-Esprit. On voit ça? Ça n'a pas avancé, non? Oui. Alors, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, mes frères, mes sœurs? Hein? L'Esprit de Dieu habite où? C'est où ça? C'est ici. Hein? Là, c'est le pluriel en vous. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous. Saviez-vous que vous êtes saint? Est-ce qu'on sait qu'on est saint? Que c'est notre nouvelle nature? Hein? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Autrefois, le temple il était où? Il était à Jérusalem. On devait se déplacer pour aller rencontrer Dieu, adorer Dieu. Tandis qu'aujourd'hui, hein, nous sommes, là c'est le pluriel, nous en tant qu'assemblée, collectivement, nous sommes le temple de Dieu. Où est-ce que Dieu habite? Ce matin, c'est ici quand on est rassemblés ensemble. Et la semaine, quand on va au bureau, là, c'est le temple de Dieu qui se promène partout. Hein? En s'approchant de nous, là, si, lorsque vous travaillez avec des personnes, vous rencontrez des personnes, c'est le plus proche qu'ils peuvent être de Dieu. Il y a des gens, parce qu'ils vous ont rencontré, ça va être l'occasion où ils ont été le plus proche de Dieu. Les Québécois, là, hein, Dieu est loin, ils ont mis ça dehors. Mais Dieu vient à eux à travers les croyants qu'ils croisent, sur la rue ou un peu partout. Et nous, lorsqu'on s'approche des gens, lorsqu'on bâtit des relations avec des gens, on les approche de Dieu, si on peut dire. Hein? Alors, tous les contacts, les relations qu'on peut avoir avec les personnes, quand on parle le matin, hey, c'est le temple de Dieu avec des pattes qui va rencontrer des personnes sur la rue ou au travail ou les voisins ou peu importe où est-ce qu'on est. On est dans un magasin. Le Seigneur agit là, et on veut agir avec le Seigneur. On a vu dans les derniers messages comment être rempli du Saint-Esprit. Et une des fonctions du Saint-Esprit qui est en nous, et quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il nous dirige. Le Saint-Esprit me dirige. Le Saint-Esprit vous a dirigé ici ce matin. N'est-ce pas? Hein? Et le Saint-Esprit m'a inspiré, ou en tout cas m'a donné un message ce matin. Le Saint-Esprit dirige nos vies. Alors, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Une caractéristique, l'évidence que je suis un enfant de Dieu, c'est que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, et nous n'avons pas un esprit de servitude, un esprit de peureux, un esprit qui suit ou qui sert Dieu parce qu'il a peur de Dieu. Hein? C'est Marc qui nous avait enseigné ça. On a reçu un esprit d'adoption. Les fils et les filles bien-aimés de Dieu sont ici ce matin. Hein? Wow! Un fils et une fille bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire de tout son cœur? Aimer Dieu en retour, servir Dieu, plaire à Dieu, hein? Écouter Dieu, faire sa volonté. Alors, et on veut faire ça parce qu'on a peur de Dieu? Non. Par amour, par passion. On est des passionnés de Dieu. Juste à prononcer le mot Dieu dans votre environnement, là, et vous allez voir que vous allez passer pour des fous. Hein? Mais c'est bon. Des passionnés de Dieu, surtout au Québec, là. Tu dis que hey, tu crois en Dieu, ou... il y a quelque chose. Alors, comment ça marche? Comment est-ce que je peux être conduit par l'Esprit de Dieu dans ma vie de tous les jours? J'ai regardé le livre des Actes, parce que c'est ce qu'on étudie. J'ai relevé une quinzaine d'occasions où vraiment le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit a parlé à des personnes. Il s'est manifesté d'une façon extraordinaire. On pourrait dire, soit dans une vision surnaturelle, soit par une voix audible, quelqu'un qui parle, une apparition, un ange ou dans une vision, l'Esprit parle directement et dit quoi faire. Alors, il y en a une quinzaine, j'en ai relevé, il y en a peut-être plus, mais j'en ai quelques-unes. Philippe, vous connaissez l'histoire de Philippe? Ouais, quel Philippe? Il y en a un ici. Philippe l'Africain, l'Éthiopien. Alors, Philippe, l'ange du Seigneur, imaginez, vous êtes, je ne sais pas, dans votre quotidien, un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Hein? Ouais. Il se leva et partit. Mais ça, c'est facile, notre idée. Hein? Un ange qui m'apparaît, qui dit, « Michel, tu vas à telle adresse? » Il est parti. L'Esprit dit à Philippe encore, « Avance et rejoins ce char. » Alors, pas juste « Va à telle place », mais garde-lui là, sur son char. Hein? Je ne sais pas s'il y avait du trafic, puis il y avait plein d'autos. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Hein? Quelque chose de vraiment spécial, là. C'est surnaturel. L'Esprit de Dieu, tu ne peux pas te tromper, là. L'Esprit de Dieu qui parle puis qui dit « Va à tel endroit. » Il y en a d'autres comme ça. Saul, lui était parti pour aller tuer des chrétiens. Boum! Hein? Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes, etc. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Qu'est-ce que vous feriez? Tu te lèves, tu rentres dans la ville, puis tu attends la suite. Hein? Alors, un autre exemple. Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, qu'est-ce qu'il répond? OK, Seigneur. qu'est-ce que tu veux, là? Me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, je pense que c'est à Joppé, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Numéro de téléphone avec ça? Hey, c'est fort, là. Hein? Tu vas dans telle rue, il y a telle personne qui t'attend. Le Seigneur a travaillé dans son cœur, il est prêt à accepter le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? On y va. Corneille, hein? Une vision, un ange de Dieu qui entre chez lui, qui lui dit « Corneille ». Et l'ange lui dit « Envoie maintenant des hommes à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé, c'est un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Seigneur t'apparaît, puis il dit « Michel, va visiter à telle adresse telle personne. » Qu'est-ce qu'on ferait? Hey, on y va, hein? Et j'en ai une autre qu'on connaît. Peux-tu que ça avance plus? Ah, là. Oups! Ah, oh, mon punch! Ça va vous préparer parce que ça se peut que je dise des affaires assez dures. On l'a vu, on l'a même acté la dernière fois, ceux qui étaient là, hein? Pierre qui est en prison. Et lumière brille, l'ange le frappe sur le côté, il dit « Lève-toi promptement, mets ta ceinture, tes sandales. » Il va dans les détails pas mal. Hein? « Enveloppe-toi de ton manteau, puis suis-moi. » Et il ne savait pas trop ce que faisait par l'ange. Il ne savait pas si, que c'était réel, mais c'était bien réel. Alors, qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Hein? Le Seigneur t'apparaît. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, en 40 ans de ministère, je n'ai jamais entendu d'une façon audible la voix du Seigneur. Et je n'ai jamais vu un ange ni une vision. Mais je sais que ça arrive. Je sais que c'est possible encore aujourd'hui. Je sais qu'il y a des musulmans dans des pays où ils n'ont jamais entendu le nom de Jésus, que Jésus leur est apparu, ils se sont convertis. Alors, oui, c'est des occasions, des visions, des apparitions extraordinaires. Mais il y a eu des moments dans ma vie où Jésus aurait été assis à côté de moi, ça n'aurait pas été plus clair. Hein? On va voir ça tantôt. Alors, tant mieux, extraordinaire, si Dieu vous apparaît. Et c'est certainement pas impossible. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Si j'avais attendu ce genre de révélation-là, je serais encore à Drummondville. Hein? Alors, ce n'est pas la façon habituelle, courante, en tout cas, ici, au Québec, dans ma perspective, c'est pas comme ça que Dieu travaille d'une façon normale, quotidienne. Hein? Même dans les actes, c'est des choses ponctuelles. On a une trentaine d'années à travers le livre des actes. Il y a quelques occasions que c'est arrivé. Et c'est arrivé à Corneille, la conversion du premier païen, l'Éthiopien. Paul, la conversion de Paul, c'était vraiment des moments charnières dans l'histoire de l'Église. Alors, ça serait facile d'avoir un ange à côté de moi qui me dit quoi dire, quoi faire, qui me souffle les réponses. Surtout si je suis dans un examen, je ne sais pas s'il y a des étudiants, et puis tu as le Saint-Esprit qui est là, puis qui te dit les réponses. Fantastique. Facile d'obéir aussi. Tu n'as même pas besoin de voix, tu marches par la vue, tu marches par les oreilles. Hein? Je suis sûr qu'il n'y a pas personne ici qui aurait eu une apparition comme ça qui ne serait pas allé. N'est-ce pas? C'est normal, tu es un enfant de Dieu, conduit de l'Esprit de Dieu, c'est clair, net, précis. Et imaginez un bébé. Un bébé, et puis tu dis au bébé, « OK, bébé, prends ta cuillère. Le bébé prend sa cuillère, mets ta cuillère dans le bol. Le bébé met sa cuillère dans le bol. Il dit, amène la cuillère à ta bouche. Le bébé il amène la cuillère à la bouche. Ouvre ta bouche. Le bébé ouvre la bouche. Mets la cuillère dans la bouche. Le bébé met la cuillère dans la bouche. Verse les céréales dans la bouche. Enlève la cuillère. Il ne veut pas te casser les dents. Et après ça, mange les céréales, avale les céréales. C'est pas comme ça que le Seigneur travaille. Il m'en manque une. Ah, il est là. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive si le bébé ne suit pas les instructions? Hein? Il a suivi sa chair au lieu de suivre ce qu'il devait faire. Hein? C'est pas impossible qu'un chrétien suive sa chair. Mais on a besoin d'apprendre. Et le Seigneur, le point, là, c'est que pas ça que Dieu veut. Nous dicter quoi faire. Jamais le Saint-Esprit va nous forcer, va nous obliger, va nous dicter, va nous contraindre. Le Saint-Esprit, il veut user de toutes nos facultés. Jamais un chrétien est décrit comme étant possédé du Saint-Esprit. Dans le sens que lorsque j'ai le Saint-Esprit, que je perds toutes mes facultés. Vous ne trouverez pas ça. Quelqu'un qui perd le contrôle de ses facultés, comme une personne ivre, elle perd le contrôle, elle contrôle plus ce qu'elle pense, elle contrôle plus ce qu'elle dit, elle contrôle plus ce qu'elle fait. Ça, c'est l'inverse de la direction du Saint-Esprit, d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une possession. Un possédé va perdre tout le contrôle de ses facultés. Quelqu'un qui est dirigé, qui est rempli du Saint-Esprit, au contraire, toutes ses facultés vont être décuplées, vont être illuminées, vont être remplies. Alors, et là, je reviens à ma photo d'avant. Alors, ce que Dieu veut, ce ne sont pas des marionnettes. Qu'est-ce qui arrive à la marionnette lorsque la main sort de là? Plate. Mes frères, mes sœurs, on ne perd pas notre personnalité lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est le contraire. On devient exactement ce que Dieu veut que nous soyons. On pense comme Dieu pense, on parle comme Dieu parle, on rêve comme Dieu rêve, on sent comme Dieu sent. Hein? Il y a comme une symbiose, là. La main et la marionnette deviennent un. Et c'est ça, être guidé, être rempli du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas de robots qui vont faire machinalement, qui vont obéir aveuglement à des prescriptions qui sont écrites dans la Bible. Il ne veut pas ça. Hein? Il veut qu'on se mette de tout notre cœur à sa disposition. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hein? La première chose que Paul a dit quand le Seigneur est apparu, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puis le Seigneur lui a dit, un petit pas, va à... c'était à Damas. Hein? Alors, on se met à penser comme Dieu, on se met à vouloir ce que Dieu veut et on le fait avec passion. Bonne nouvelle, mes frères, mes sœurs, même s'il n'y a pas d'apparition, en tout cas, c'est pas fréquent, une bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit parle à l'intérieur. Le Saint-Esprit parle à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de nous apparaître. Il est là. À l'intérieur de nous, et le Saint-Esprit nous parle. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis, les enfants de Dieu, ont de l'intuition. Hein? Ils savent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me parle. Et je reconnais que c'est Dieu qui parle. Peut-être tu es assis ce matin. Puis, il y a quelqu'un qui prêchait en avant, puis comment qu'il peut dire ça? C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Hein? Et on a une intuition spirituelle. Les brebis, là, sont toutes mêlées dans un parc à brebis. Le berger arrive, venez-vous-en, ma gang. Puis les brebis de son troupeau vont sortir du parc, puis vont suivre le berger. On a cette faculté-là. Tu peux entendre, tu peux écouter la voix du berger, mon frère, ma sœur. Ça se développe, ça. Ça se pratique. Hein? Et quand je lis la parole, puis que le Saint-Esprit met son doigt sur ce verset-là, waouh, il se produit une étincelle, il se produit une lumière. C'est Dieu qui me parle de l'intérieur. Le Saint-Esprit me parle de l'intérieur. Hein? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre... Ça se passe où, ça? Ça se passe à l'intérieur. C'est vrai pour la nouvelle naissance, c'est vrai pour des convictions de l'Esprit quand je lis la parole. Et l'amour de Dieu est répandu, où ça? Dans nos cœurs. Alors, l'intuition, la conviction que le Saint-Esprit met dans mon cœur, la communion que j'ai avec le Seigneur, ça se passe à l'intérieur le plus souvent maintenant. Est-ce qu'on peut être guidé par le Saint-Esprit? Il est où, le Saint-Esprit? À l'intérieur. Et on peut marcher par le Saint-Esprit. On a déjà vu, hein, le dialogue intérieur. On a sept voix qui nous parlent. Constamment. Il s'agit de discerner qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Oups, ça vient d'où, ça? Hein? Levez votre main quand vous avez une pensée qui est peut-être qui trouble. Levez la main et dites, oh, ça vient d'où, ça? Et... si ça vient du Saint-Esprit, ça va être une voix douce, une voix qui parle au cœur. Sinon, ça risque de ne pas venir du Saint-Esprit. Il y avait une dame récemment qui avait peur, elle était toute tremblante parce qu'elle vivait des choses très difficiles. Et puis, on est allé dans la prière, puis j'ai juste dit, regarde Jésus. Et puis, elle a cessé de trembler. Elle a vu Jésus qui lui apportait la paix. Le Saint-Esprit est là. Regardons à Jésus. Alors oui, ça se peut qu'il y ait des occasions merveilleuses, miraculeuses, je pourrais dire, mais ce n'est pas sous notre contrôle. C'est Dieu qui va prendre l'initiative. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Entendre, écouter, être à l'écoute avec tout notre cœur, toutes nos facultés. Seigneur, je veux t'écouter à tout prix. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ah, Seigneur ne me dit rien. Qu'est-ce qu'on fait? On se tourne les pouces. L'histoire de Paul, c'est une bonne occasion. Paul n'a pas attendu. Il ne s'est pas croisé les bras. Il n'est pas resté inactif. Paul, il a bougé. Hein? C'est dans l'action que l'Esprit dirige. C'est dans l'action. Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas, là. la réflexion, ça fait partie de l'action. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, hein, que veux-tu que je fasse? Et là, bouge. Hein? Essaye de quoi? Tu vas te tromper, peut-être, tu vas être comme le petit bébé là, qui a tout gâché. Pas grave, tu vas apprendre. Tu vas apprendre. La peur de ne pas faire la volonté de Dieu, ça paralyse. Et ça ne vient pas de Dieu. Hein? La peur de ne pas faire la volonté de Dieu, si ça te paralyse, ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu, il veut qu'au meilleur de toi-même, au meilleur de tes connaissances, tu fasses de quoi? Hein? Lise, ça vient du Seigneur, je pense qu'il lui a dit d'aller marcher parce qu'on n'est pas en forme. Hein? Puis moi, je la suis. On fait notre demi-heure de marche par jour. même quand il fait très froid, là. Et puis, on passe devant une auto qu'on avait vue, puis il y avait un verset biblique dans la vitre de l'auto en arrière. C'était quoi, déjà? Goûtez, vous voyez que le Seigneur est bon. Bon, on dit certainement que des chrétiens qui restent là. Et puis, le lendemain, on repasse, puis là, il y a une madame avec sa petite fille qui rentre. J'ai eu la vision, hein, que c'était elle. Puis en effet, elle rentre dans la cour. Hey, on vire de bord. Hey, t'es chrétienne? Oui. Puis là, on jase, puis on dit qu'on est avec Asmik. Elle dit, c'est mon pasteur qui a amené Asmik au Seigneur quand il était en prison. Hein? Et un peu plus tard, on rentre chez nous, notre voisin arrive, son petit garçon de. Il a le cancer, il y a un an à peu près. Il vient d'avoir un an. Puis il y a des traitements. Alors, juste lui dire qu'on est avec lui, qu'on prie pour lui, c'est déjà un contact. Alors, saisissons les occasions. L'Esprit de Dieu nous guide. Allons marcher dehors, une demi-heure par jour. On va des chrétiens en forme. Mais on bouge. Mais avec cette dimension-là que le Seigneur, il nous amène en quelque part. Alors, ça va pas bien avec Paul. Paul vient de se disputer avec son ami. Hein? Barnabas, qui... Ils ont une forte dissension, là. Un profond dissentiment, c'est écrit. Avec son ami, son meilleur ami, Barnabas, qui l'a introduit dans l'Église. Et là, il est toujours de refaire une équipe. Il choisit un nouveau coéquipier, Silas. Silas, qui était venu de Jérusalem, c'est probablement un pilier de l'Église de Jérusalem, un prophète aussi. Alors, tous les ajustements avec sa nouvelle équipe. Et là, il y avait un juif, on pourrait dire, de pure race. Puis là, il y a un grec, pas pure race, mais en tout cas, dont le père était grec, Timothée, comme on a vu ce matin, et Paul, ah oui, ça va faire un bon équipe. Il va pouvoir parler aux Grecs, puis leur dire. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il demande à Timothée? Qu'est-ce qu'il fait avec Timothée? La première chose, le faire circoncire. Il se promène dans toutes les églises, puis il dit, vous n'avez pas besoin de faire circoncire. Hein? Il fait le tour des églises pour... Il venait d'avoir le concile à Jérusalem, puis non, pas besoin de faire circoncire. Puis là, il décide de circoncire Timothée, parce que Timothée n'aurait pas pu avoir aucun témoignage s'il n'était pas circoncis à l'extérieur. En tout cas, tout ça pour dire que c'était pas évident. Hein? Il était au milieu de la controverse, mais il prend des décisions éclairées avec toutes ses facultés. Alors, dans un premier temps, il visite les églises. On a l'histoire de Timothée. Et il le circoncit, puis en passant par les villes, il recommande aux frères d'observer les décisions des apôtres des anciens de Jérusalem. Alors, c'était la première étape de son plan d'action, c'était d'aller revisiter les églises qui venaient de naître. Alors, ils ont fait le tour. Dans un deuxième temps, ils vont aller évangéliser des territoires où l'Évangile n'a pas pénétré encore. C'était deuxième plan d'action. Alors, ils pensent, on va aller en Asie. On va aller, là, il y a un bon potentiel, hein, les sept églises de l'Apocalypse, ce sont là. Ils n'étaient pas là probablement à l'époque, mais ils sont là. Et Éphèse, c'est la capitale, il y a un bon potentiel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Le Saint-Esprit qui t'empêche d'annoncer la parole, c'est quoi, ça, là? Mais en Asie, dans un territoire en particulier. Comment ils ont été empêchés par le Saint-Esprit, l'histoire ne le dit pas. Est-ce qu'il y a eu... C'est probablement... ou peut-être Silas, qui était prophète, qui recevait des paroles de Dieu. Ça peut être une conviction intérieure, comme on disait tantôt, ou que les portes se sont fermées, mais ils étaient Ils écoutaient, ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit. Au meilleur de notre connaissance, on va en Asie, ça semble être un bon territoire pour annoncer l'Évangile. L'Esprit dit non. Allez ailleurs. Mais il ne dit pas où. Hein? Deuxième étape. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. J'ai une carte, la personne. Il se disposait à entrer en Bithynie. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus, il décide d'aller dans un autre territoire. Et là, l'Esprit de Dieu dit, non, non, c'est pas là. Conduit par la négative. Hein? Il leur dit pas où aller. Finalement, pendant la nuit, ils arrivent à Troas et Paul a une vision, un Macédonien qui lui apparaît, qui lui fait cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Ouh, enfin. Hein? La question, pourquoi pas leur dire au départ? Hein? Regardez là. Ils partent d'ici là. Alors, ils veulent aller en Asie, le Seigneur il dit non. Ou ils partent d'ici. Ils veulent aller en Asie, mais le Seigneur dit non. OK, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va aller en Bithynie, peut-être qu'il y a un port de mer ici, là, peut-être. Alors, ils font ça. Puis là, l'Esprit s'oppose à l'entrée des apôtres en Bithynie. Bon, qu'est-ce qu'on devrait faire? OK, on va aller à Troas. Et là, c'est à Troas qu'est la Macédoine. 2000 kilomètres, j'ai calculé. 2000 kilomètres. À pied, là. Ça, c'est comme d'ici Montréal à Winnipeg. À pied. Ouh, j'espère qu'il y a une caravane, je ne sais pas trop. Mais eux autres, ils faisaient leur marche pas plus qu'une demi-heure. Hein? Mais, juste avec leur calcul à eux, là, j'ai calculé aussi que s'ils étaient partis, ils avaient eu la vision au départ ici, un petit 500 km par Éphèse, puis ensuite tu vas en bateau jusqu'à Philippe. Hein? Ou bien, à pied, tu peux monter 900 km. Hein? Ouais. 500 au lieu de 2000, même 900 dans le pire des cas. Hein? Tout, imaginez le temps, l'énergie qui est dépensée à nos yeux, là. Ça a pris combien de temps faire 2000 km? On fait combien de kilomètres par jour? Un bon 20-30 kilomètres? Ouais. C'est au moins 2 mois, là. Fait du pouce?
Non, mais il y a probablement ajouté d'autres noms pour ce...
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah ouais, je sais pas. Le mot... Compostelle. Ah oui? OK.
Mais 20-30, je pense.
Ouais. Ben, disons un mois, 2 mois, là. Où, à nos yeux, on peut dire, temps perdu, là. Il aurait été bien mieux d'attendre, d'avoir une révélation, hein, pendant 2 mois. De regarder la télévision, je sais pas. Non, c'est pas mal, ça marche. Hein? La vie chrétienne, là, c'est une mosaïque de circonstances qui, à nos yeux, n'ont pas rapport. Comment ça, vous êtes ici, vous autres, là, qui venez d'ailleurs? Hein? Qui c'est qui vous a... Le hasard? Hein? Des imprévus, des inconvénients? Toutes sortes d'empêchements, des échecs, des contrariétés, des détours, des questionnements. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Hein? Comment apprendre à marcher avec le Seigneur, être dirigé par le Saint-Esprit. Tout ça, ce n'est pas perdu. Hein? L'important, c'est me confier, d'avoir confiance que le Saint-Esprit est en train de me diriger. J'ai confiance, malgré les circonstances, que le Saint-Esprit me dirige. Je ne sais pas exactement quoi faire, mais je marche. en écoutant, à l'écoute du Saint-Esprit. Paul, il marchait à tâtonnement, hein, un pas à la fois. Paul, il faisait des plans. Il usait de toutes ses facultés. Et avec le meilleur de ses connaissances, au meilleur de son intuition, au meilleur de son cœur, il bougeait. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend la direction du Saint-Esprit. C'est comme une prière bougée. C'est comme un jeûne, hein? On dit avec notre corps, en marchant, Seigneur, garde, je bouge. Hein? Maintenant, dirige-moi. Jésus disait, hein, mon Père travaille, mon Père agit, moi aussi, j'agis, je me joins à la direction de l'Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit savait, lui, où ils allaient, où ils devaient aller? Parfaitement. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Tous ces territoires là, qui étaient fermés, là, ils vont être évangélisés. Même Paul va retourner. Les sept églises d'Apocalypse en Asie. Hein? Puis Pierre, quand il écrit aux chrétiens à Bithynie. Donc, mais la priorité, c'était la Macédoine. C'était la Macédoine. Et la Macédoine, c'était, ça allait devenir le continent Europe. Et c'est ce continent-là qui a été le plus ouvert à l'Évangile. Hein? Qui a été christianisé à cette époque-là. Alors, l'Esprit, c'est ce qui est. Et c'est ce qu'il fait. Alors, en conclusion, marchons. Hein? Faisons des marches, puis soyons aux aguets. Qu'est-ce que le Seigneur va me dire à l'intérieur? Hein? Où est-ce qu'il va m'amener? Ayons confiance que le Saint-Esprit est là, il est avec nous. Le Saint-Esprit, il veut que nous allions dans telle circonstance. Malgré les... Des fois, c'est un pas à la fois. Hein? Un pas à la fois. OK, Michel, tu t'en vas à tel endroit, puis ça va durer X années. Mais à chaque fois, c'est la question principale, c'est « Seigneur, j'ai confiance. » Seigneur, j'ai confiance que même avec mes erreurs, hein, le petit bébé là, qui est tout qui est tout barbouillé, là, à un moment donné, il va apprendre. Hein? Alors, la peur des erreurs, ça peut nous paralyser. Et ça ne vient pas de Dieu. Alors, fonce, on fonce. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire dans l'Église? As-tu peur de ce que les gens vont dire? T'as peur de manquer ton coup? Hey, ça ne vient pas de Dieu. Lève ta main et dis « Wow! » Hein? Moi, j'ai à cœur d'enseigner les enfants à l'école du dimanche. Ah! Ben peut-être que ce n'est pas ta place pantoute. Puis tu vas avoir l'air du bébé qui est tout... Mais c'est pas grave. Pas grave. À un moment donné, tu vas trouver. Tu vas trouver de la place. Puis tu vas voir. Tu vas voir que le Saint-Esprit va te guider. C'est quoi que le Seigneur t'appelle à faire dans cette église-ci pour bâtir l'Église? Hmm? Alors, je termine avec... le verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait. Est-ce qu'il a perdu sa faculté de réfléchir? Non? Hein? Non? On ne perd pas nos facultés lorsqu'on est rempli, lorsqu'on est guidé par le Saint-Esprit. Au contraire, nos facultés sont illuminées par le Saint-Esprit. Et une chose aussi importante, c'est nous, il y a une conviction commune. Toute l'Église se lève, toute l'équipe s'est levée. Et à Troas, qui est-ce qui se joint à l'équipe? Luc, qui a écrit les Évangiles, puis qui a écrit les Actes. C'est peut-être ça le détour. Peut-être qu'il n'aurait pas été là s'il était allé trop vite. Hein? Wow! Luc qui va se joindre à l'équipe à partir de ce moment-là. Le « nous », c'est la première fois qu'il va dire « nous » dans ce texte. Alors, écoutons le Saint-Esprit. Bougeons avec la conviction que le Saint-Esprit est avec nous. Ayons pas peur de faire des erreurs. Ça va arriver, tu vas faire des erreurs. Mais dans toutes circonstances, usons de toutes nos facultés, puis le Seigneur va, à un moment donné, va mettre son sceau. Amen. À l'attaque. À l'attaque.